podcast.
On est parti pour une autre saison de Radar. Content de vous retrouver en ce 2 octobre 2025. Anthony Desaulniers qui est avec vous, tout comme Olivier Paiement.
Comment ça va, les gars? Je suis content de vous retrouver.
Ouais, ça va bien. Puis comment ça va,
les gars?
Oui,
ça va bien, les gars, vous autres?
Ouais, ça va bien. C'est le fun. Une nouvelle mouture de l'édition Radar où est-ce qu'on va faire un survol des 32 équipes de la Ligue nationale de hockey, évidemment, avec un axe particulier sur le Canadien de Montréal. De façon hebdomadaire, on va essayer de creuser un peu partout tout ce qui se passe. On est bien content que vous soyez dans l'aventure encore une fois avec nous cette année. Les gars, écoute, je n'ai pas le choix. La signature de Luke Hughes est tombée et tout le monde fait des parallèles avec le contrat de Lane Hudson parce que ce sera un gros débat encore une fois cette année à Montréal. Est-ce que ça va traîner à longueur? Est-ce que ça va venir empêter Lane Hudson dans ses performances? Est-ce que ce sera une distraction pour le défenseur, mais aussi pour le reste de l'équipe? Premièrement, à brûle pour point, ça vous stresse-tu le contrat de Lane Hudson?
Moi, plus ça avance, plus ça m'ajoute un mini-stress. Mais est-ce que je suis stressé plus que ça? Non, parce que je pense pas que c'est pas dans la personnalité à Lane Hudson à faire la grève ou à attendre, je pense, ou à vraiment pousser ça le plus possible. Est-ce que son agent va vouloir le faire? Peut-être. Mais Lane Hudson n'a pas l'air du genre de personne qui va vouloir étirer l'élastique le plus possible, couler des affaires dans les médias. Alors de ce côté-là, je suis pas inquiet.
Ouais, moi non plus, je pense qu'au contraire, quand on va être plus dans le côté peut-être après Noël, là, peut-être que ça va être un peu plus stressant. Je pense même pas que ça va se rentrer là. Kent Hughes a l'air vraiment, vraiment à l'aise par rapport à ça. Puis comme Ali l'a dit, je veux dire, le clan Hudson aime être à Montréal. Ils ont déjà fait des étapes pour bien s'installer ici, pour s'accommoder à l'environnement, mais aussi au succès de l'équipe. C'est sûr et certain que ça va se faire. T'sais, je pense que les deux vont trouver un terrain d'entente. Puis est-ce qu'il va avoir de l'argent de cette côté? Ça, c'est ça que j'ai hâte de voir, ouais. En fait.
C'est un plancher, on s'entend, le contrat signé par Luke Hughes hier. Là.
Ah oui, oui.
C'est un plancher pour... L'agent de Lane Hudson devait être content. Ça, c'est le minimum. Puis on se reparlera tant que c'est pas pour au moins ça l'offre.
Pour les gens qui n'ont pas vu, c'est 7 ans à 9 millions de dollars pour Luke Hughes. Et pour moi, il y a une grosse différence entre 7 ans et 8 ans. Parce que ce sera une année d'apogée pour Lane Hudson. Dans ma tête à moi, puis écoute, je suis pas dans les coulisses, je suis pas un agent, je suis pas un directeur général, mais si Luke Hughes avait apposé sa signature sur un contrat de 8 ans, on parle pas mal plus de 9,5 millions à place de 9 millions.
Exactement.
Parce que tu vas chercher une année supplémentaire de contrôle du joueur lorsqu'il aura 30 ans, lorsqu'il sera peut-être pas au sommet de ses aptitudes, mais quand même une année importante. Fait que si Lane Hudson veut y aller pour 8 ans... T'sais, on s'était parlé un peu plus tôt dans le Club du Matin, Oli. Puis moi, j'avais avancé 9,75 millions. De ton côté, tu avais dit 10,5.
Ouais.
Moi, je garde encore ma position. Je pense qu'Hudson va signer un tantinet plus élevé que Noah Dobson, mais on n'a pas encore entendu, Hugo. Combien tu penses que ça va coûter, Lane Hudson?
Ben, moi, j'étais intéressé à voir, justement, si on parle du fait que le gars veut s'impliquer dans la culture gagnante du Canadien. Est-ce que vous pensez que 9 millions, ça pourrait être acceptable pour une année de plus? Ça serait quand même mettre de l'argent de côté. Ça prouverait aussi une certaine loyauté au club. On touche aux 9 millions, mais on sent qu'on veut contribuer. Tu sais, moi, ça m'étonnerait.
C'est le plancher.
9 millions pendant 8 ans?
Oui, c'est ça.
Écoute, moi, je pense que si Hudson était prêt à accepter ça, ce serait déjà signé.
Ça, c'est
j'ai l'impression
ça,
c'est la raison pour laquelle on se parle début octobre et que c'est pas encore fait, c'est parce qu'il y a une divergence d'opinion. Moi, on m'avait dit entre les branches que le clan Hudson, il y a de cela quand même plusieurs semaines, avait des attentes assez élevées.
Ouais.
C'était pas 11 millions, c'était pas 13 non plus. Lisez entre les lignes. Moi, c'est le chiffre qui m'avait été avancé de la rapport du clan Hudson. Kent Hughes est-il prêt à aller jusque-là? Je pense pas. En même temps, Kent Hughes est-il prêt à laisser jouer son défenseur vedette une année de contrat ou est-ce qu'il pourrait concrétiser encore au niveau statistique et faire augmenter la valeur de son prochain contrat? Moi, je trouve que Hughes est un peu entre l'arbre et l'écorce à travers ça.
Tu as établi, OK, j'ai gagné un Calder l'an passé, une saison historique pour un défenseur. Si Lane Hudson fait mieux encore cette année, disons il connaît une saison où il est encore top 10, top 5 pour le Norris, 70-80 points, il va coûter cher.
Ouais.
Regardez juste les contrats qui ont été signés par des défenseurs dans la dernière année. Evan Bouchard a signé pour 10,5 millions de dollars. Noah Dobson a signé pour 9,5 aussi. Jacob Chychrun a signé pour 9. Ivan Provorov a signé pour 8,5. Puis on s'entend là...
Non, non.
La différence entre Ivan Provorov et Lane Hutson, elle est immense.
Mais c'est pas le même type de défenseur, par contre.
Non, mais en même temps, les Jackets étaient coincés avec Provorov. Ils voulaient pas le perdre pour rien. Ils l'ont gardé à la date limite en essayant de faire un push pour les séries. Puis c'est comme si on le laisse partir pour rien, on amenait comme notre erreur. Fait que c'est quasiment si on lui a donné un chèque en blanc à Provorov.
Ouais.
Tu sais, j'ose croire que Kent Hughes, il va venir l'agent d'Hudson et il dit hey, lâche-moi Provorov, là, le comparatif. Là, ça, chaque équipe a sa propre situation.
Je suis d'accord, mais ça montre qu'il y a quand même chez les défenseurs une augmentation exponentielle des salaires. Tu sais, regarde les défenseurs les mieux payés de la ligue. Terry Carlson à 11,5 et Drew Doughty à 11 millions. Ces contrats-là ont été signés il y a très longtemps. Rasmus Dahlin à 11, Evan Bouchard à 10,5. C'est les seuls quatre défenseurs qui font plus de 10 millions. Lane Hutson, on s'entend, en niveau de jeu, niveau de hockey, il mérite absolument d'être considéré parmi l'élite de la Ligue nationale. Je serais pas surpris que ça aille au-dessus de 10 millions de dollars.
Bon. Un an de plus à 10 millions flush. Moi, je pense que ça peut être quelque chose de réalisable.
8 fois 10, ça se peut. Je pense que ça serait réaliste comme point final.
Ouais.
Mais deux comparables dans les âges puis dans les années où est-ce qu'on a signé. Owen Power, là, je vais de mémoire, là, je pense que c'est 8,35 millions pour l'ancien premier choix total des Sabres de Buffalo.
Pour 7 ans.
Lui. Et Brock Faber à 8,5 millions avec le Wild, qui lui, situation un peu similaire à Hudson, venait de terminer deuxième au Calder. Bon, peut-être pas autant de points sur le tableau, mais un rôle tellement important avec le Wild.
Ouais.
Sauf que si jamais moi j'arrive avec ces arguments-là de l'autre côté, tu sais, Luke Hughes a signé à 9 millions.
Mm-hmm.
Moi, si je suis Kent Hughes, je dis hey, Noah Dobson, qui est réputé comme étant un des solides défenseurs droitiers de la business, et Dieu sait que les défenseurs droitiers, ça compte pour quelque chose, il a signé à 9,5. Et en plus, Dobson, c'est son autonomie complète que j'ai signé. Tandis que Hudson, tu as plusieurs années de joueur autonome avec compensation qui serait dans la transaction. Fait que c'est pour ça, moi, je pense que ça va être un peu le jeu du chat et de la souris entre Hughes et l'agent d'Hudson.
Mais au final, c'est Hudson qui a le gros bout du bâton à travers tout ça parce que lui, plus il attend, plus il mise sur lui-même et plus sa valeur ne va juste augmenter. Parce que si, disons...
S'il performe,
mais est-ce que tu as des raisons de croire que Lane Hudson ne va pas performer encore cette année, puis au minimum connaître une aussi bonne saison que l'an passé?
Je suis d'accord avec ce que tu avances, sauf que Slafkovský, il y a 2 ans, quand il a terminé sa saison, vous auriez-vous attendu à une baisse de régime l'année suivante? Il avait terminé en force.
L'échantillon
était plus petit.
C'est vrai que l'échantillon était plus petit, mais on parle quand même d'un gars de 6 pieds 4 qui avait bien fait en fin de saison, ce qui a permis de signer un gros contrat. Tu sais, il n'y a aucune certitude, mais je suis tombant. Moi aussi, j'anticipe une belle saison pour Lane Hutson.
Ben, c'est sûr, tu sais, puis je pense que c'est de mise aussi. Ça va pas être une situation de zone grise, mettons, comme Mason McTavish. Mason McTavish, qu'il y a eu quand même un assez bon échantillon dans la Ligue nationale. On n'était pas trop sûr de son rôle au début. Ça allait être peut-être plus offensif. Finalement, se convertir en centre qui est un peu plus two-way. Maintenant, on a réussi à trouver un terrain d'entente pour que ce gars-là continue à pousser, mais peut-être pas au montant qu'on veut. Lane Hutson, on a une certitude probablement là, sur sa production. Là.
Mais Mason McTavish, il n'a pas signé cher.
Ben non, c'est ça.
Non, ça, c'est le genre de contrat que dans 2-3 ans, 4 ans, ça pourrait être une aubaine pour de vrai. Là,
ça, c'est le genre aussi d'exemple, je trouve, d'un club qui n'a pas trouvé nécessairement une identité claire envers son joueur.
Fait autant d'argent que Mikael Granlund.
Exactement.
Qui viennent juste de signer cet été.
Ouais,
je comprends, c'est différent, agent libre, etc.
C'est pas ça, c'est que d'un côté, t'as la surenchère du marché des joueurs autonomes, puis de l'autre, ben, t'as ton joueur qui est sous contrôle, qui t'étire jusqu'à la mi-octobre, voyons, j'ai de la misère, la fin septembre dans le cas de Mason McTavish, mais ça reste que 7 millions pour... En quelque sorte, je me trompe-tu? Je vois-tu trop loin en disant l'âme des Ducks d'Anaheim?
Ben pour l'instant, c'est pas mal ça. Là.
C'est pour moi.
Ils n'ont pas un noyau clair.
T'sais, on s'entend que.
Non, mais dans ma tête, c'est plus l'âme de l'équipe que Leo Carlson, mais je vais prendre Leo Carlson en termes de talent.
Ouais.
Mais pour moi, l'âme d'une équipe, c'est un peu le joueur qui dit je mets mes bottes de travail et suivez-moi la gang.
Un gars qui pourrait être le capitaine une fois que Radko-Gudas ne l'est plus.
C'est sûr, ça va être lui. C'est écrit dans le ciel.
Moi,
c'est comme ça je l'interprète pour Mason McTavish. Ouais. Je reviens, les gars, à Lane Hutson. Papier intéressant dans The Athletic qui est co-signé par Arpène Basu et Pierre Lebrun, qui mentionne un point que je n'avais pas encore entendu dans le cas d'Hudson. Jusqu'à lundi, on est le 2 octobre. Là. Donc, jusqu'à lundi, le 6 octobre, donc j'espère que vous l'écoutez rapidement, le podcast, il y a possibilité de faire des contrats différés dans la Ligue nationale de hockey. À partir de mardi, d'ouverture de la saison régulière, où est-ce qu'il y aura 3 rencontres, ce ne sera plus possible de le faire. il y a peut-être une partie-là exploitée entre l'agent de Hudson et Kent Hughes pour en venir à une entente qui pourrait satisfaire les deux équipes, les deux clans, c'est-à-dire de repousser un peu de salaire pour faire descendre la moyenne annuelle sur l'impact de la masse salariale et être capable quand même de donner des sous importants à Lane Hudson. Le voyez-vous, ce scénario-là?
Un contrat à la Shohei Ohtani.
Ouais, c'est un contrat à la Shohei Ohtani.
Un million, ben, un contrat. Million. On te paiera en 2040.
Un contrat à tous les joueurs des Dodgers de LA, honnêtement. Ouais, mais oui, c'est clair que ça peut être une option sur la table. Là. Puis je pense aussi que ça va être, c'est une belle porte pour justement trouver un terrain d'entente plus rapidement. Puis on en a parlé, je ne veux pas répéter, mais Lane Hudson, c'est un gars qui aime Montréal, qui aime la culture. Donc ça aussi, ça peut clairement être une option pour eux autres.
Ouais, là, mais c'est intéressant que tu dises ça parce que dans le Club du Matin cette semaine, on a reçu Stéphane Fizet,
ouais,
qui est un ancien agent de joueur. Puis on parlait de négociation de contrat et tout. Puis pour les gens qui ne savent pas, Stéphane était dans le cabinet d'agents qui gérait Philippe Danault. Et tout le monde se souvient des négociations houleuses,
ouais,
entre,
ouais,
Danault et le Canadien. Puis je lui demandais à la base, est-ce que Danault, ça l'a pesé sur ses épaules? La fameuse année de négociation.
Ça avait été difficile, sa dernière année avec le Canadien.
Tu sais, statistiquement, Oli, puis je ne vais pas te prendre à brûle pour point ou flat foot, mais statistiquement, seulement 5 buts en saison régulière pour Danault, et même en série, c'est une poignée de points qu'il avait récolté alors que le Canadien s'était rendu en finale de la Coupe.
4 points en 22 matchs, puis ouais, c'était le premier centre. Là. Oui, avec Nick Suzuki qui était en émergence, mais c'était un peu le centre de premier trio. Ça avait été une saison difficile pour Philippe Danault. Puis là, depuis qu'il est arrivé à Los Angeles, on le sent vraiment libéré et tout ça.
L'avantage numérique.
L'avantage
plus
numérique.
Plus de responsabilité.
Ouais, etc. On sent qu'il est plus valorisé aussi, je dirais. Mais oui, c'est intéressant. Et Stéphane Fizet, en plus, qui nous parlait de lorsqu'un joueur prend un peu une réduction de salaire pour rester à la maison, tu sais, le fameux hometown discount. L'association des joueurs n'aime pas ça. Évidemment, les agents n'aiment pas ça, eux non plus. L'agence n'aime pas ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ce jeu-là qui pourrait se jouer en coulisses avec Lane Hudson parce que lui, là, je pense que si c'était juste de lui, le 1er juillet 2025, le contrat aurait été signé.
Ben oui,
on se casse pas la tête, on passe à autre chose. Mais c'est parce qu'avec le talent qu'il a, s'il signe à rabais, ça pourrait faire mal pour les contrats des prochains défenseurs.
Puis je veux pas jouer dans ces plates-bandes-là. Je sais pas si je devrais, en fait, mais Lane Hudson, c'est une future star américaine.
Ouais.
On sait que le hockey aux États-Unis prend davantage d'ampleur. Là, la NCAA qui peut se mêler des dossiers de la Ligue canadienne, ça aussi, c'est pas bon pour la Ligue.
Bon point. Et t'as raison, Hugo, que les joueurs américains, ils ont tendance, je dirais, à plus utiliser aussi leur statut, leur influence, puis leur levier de négociation que les joueurs canadiens, on en a vu tellement au cours des dernières années,
exact,
quitter justement les marchés canadiens, ce ne sera pas le cas avec les Hudson, mais c'est juste un peu un exemple qu'on donne de les joueurs américains ont plus tendance à vraiment utiliser le gros bout du bâton et le maximiser le plus possible.
Oui, parce que ça s'est vu abondamment dans les dernières années.
C'est
on a vu Matthew Tkachuk,
ouais,
on a vu évidemment Johnny Gaudreau qui malheureusement est décédé.
Jacob Trouba.
On a vu Jacob Trouba, Adam Fox.
Ouais.
On a vu, tu sais, il y en a eu quand même quelques-uns qui ont décidé de plier bagage. Je suis convaincu que les Sénateurs d'Ottawa se donnent des tapes dans le dos d'avoir signé à long terme Brady Tkachuk,
ouais,
qui lui est encore sous contrat jusqu'en 2028.
Avec Alex DeBrincat, c'est un autre exemple qui lui
Alex DeBrincat,
en est parti.
Ouais. Fait que c'est là où est-ce que tu dis, puis encore une fois, on va le répéter pour que ce soit bien clair. Moi, dans ma tête, c'est pas le cas de Lane Hudson.
Non.
C'est
non.
pas du tout le caractère de joueur qui va venir mettre pression sur le club pour dire, hey, moi, je vais jouer aux États-Unis, c'est ça qui m'intéresse.
Ouais.
Comme c'est probablement le cas de Quinn Hughes, qui lui va peut-être quitter Vancouver
ouais.
pour aller jouer éventuellement au New Jersey avec
la
ses
saison,
frères.
La saison n'est pas commencée encore, puis on sent déjà la lourdeur de ce sujet de discussion-là à Vancouver.
Ah ouais.
Mais OK, je suis content que tu rajoutes à Vancouver, parce que pour moi, Lane Hudson, on le sent dans les médias.
Oui, oui, c'est ça. Exact.
Mais je pense pas que c'est si lourd que ça dans le vestiaire du Canadien, la prolongation de contrat de Lane Hudson.
Non plus.
Honnêtement, là.
Ça va être pas mal plus lourd à Edmonton avec Connor McDavid.
C'est sûr. Mais tu sais, prenons 30 secondes, là. Expliquons un peu là, l'envers là, du décor, là, l'univers des médias.
On est profond dans ça.
Ben,
non,
ouais.
mais la réalité, c'est ça. C'est que le Canadien de Montréal, ça pogne tellement au Québec que le moindre petit sujet, on l'exploite. Puis
exact.
C'est normal. Parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent. Tu sais, vous le savez peut-être pas à la maison, là, mais on va faire une chronique baseball ou une chronique NFL. La messagerie texte se remplit de parler du Canadien.
Ouais.
C'est ça qu'on veut entendre, parler du... On est comme, hein, ça fait 45 minutes qu'on en parle, on parle 15 minutes, on va reparler dans la prochaine demi-heure. Non, parlez-en encore.
Et les chiffres
là.
Prouvent aussi.
Et les chiffres sont là à la
sur YouTube, à la radio, les réseaux sociaux.
C'est sûr que une nouvelle comme Lane Hudson, qui est admissible à une prolongation de contrat, on va en parler.
Ouais.
Mais pour moi, je pense que c'est un big deal pour nous puis pour le public en général. Mais dans le vestiaire du Canadien, puis même à l'état-major, non. Tout le monde le sait que ça va se régler. Là.
Pour revenir à la question du début, c'est quoi la date où on commence à s'inquiéter? T'sais, si on avait à installer, disons, une horloge ici, là,
après les Olympiques,
countdown jusqu'à temps qu'on commence à être inquiété, c'est quoi la date qu'on se dit « Ih, aujourd'hui, il n'a pas signé, je suis plus trop sûr, là, je commence à être un peu inquiet. »
15 septembre 2026.
Okay, ça, c'est la date pour les... Tu peux plus signer pour 8 ans, c'est ça?
Exact.
C'est ça. Ouais.
Moi, c'est là que je m'inquiète.
Okay. Début du camp, tournoi de golf, tout
parce
ça.
Parce que Lane Hudson est un joueur 10.2C. Ça veut dire pas admis d'offre hostile.
Ouais.
Pas d'arbitrage, rien, aucun levier.
Non.
Évidemment, ses performances sur la glace font en sorte qu'il peut débarquer avec un CV intéressant à la table de négociation puis dire hey, regarde, là, moi, c'est ça que j'ai fait, là, ça vaut 15 millions, là, ou peu importe. Là. Mais tant et aussi longtemps qu'on est capable de le mettre sous contrat 8 ans, c'est sûr que je vais en parler de plus en plus puis qu'on va revenir puis enchaîner avec les sujets. Mais tant aussi longtemps que 8 ans, c'est sur la table, pour moi, ça ne m'inquiète pas.
Non, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'on a une saison complète à jouer, puis c'est ça. C'est parce qu'on est rendu tellement habitué aussi à avoir des joueurs signés rapidement. T'sais, on l'a vu cet été avec Frank Nazar, qui a signé avec même pas 60 matchs derrière la cravate.
Un gros montant quand même.
Un gros montant en plus. Mais on est tellement rendu habitué à des joueurs, on les voit jouer une saison et ils signent, que là, on part en peur quand c'est pas le cas, mais... Je suis pas mal dans la même situation que toi aussi. Là. Si les joueurs du Canadien sautent officiellement sur la glace en septembre prochain et que Lane Hudson n'est pas là, là, on peut commencer à s'inquiéter.
Ça arrivera pas.
Et ça arrivera
ça
pas.
Ça arrivera pas.
Parce que c'est pas dans son caractère.
Exact. Non, je pense pas. Puis je pense que ça va être réglé d'avance. Moi, écoute, moi, je pense que c'est après les Olympiques. Dans le coin des Olympiques, match des étoiles, on va être à un mois et demi, peut-être deux mois de commencer à parler de la course aux séries éliminatoires. Est-ce que ça peut devenir une distraction? Moi, c'est ça qui me fait peur.
Hey, je vais me rétracter parce que 15 septembre, c'est effectivement là où est-ce que la convention va changer, mais c'est le 1er juillet, la date limite pour Lane Hudson de signer 8 ans. Sinon, comme n'importe quelle année, un joueur qui passe à sa dernière année ne pourra pas s'entendre pour une longue période de 8 ans. Ce serait 7 ans au maximum. Mm-hmm. Fait que je te dirais 1er juillet l'année prochaine, vraiment, pour avoir la possibilité de signer 8 ans. Sinon, ben, ce sera en 15 septembre le changement de convention collective dans le cas de Lane Hudson. Les gars, on a mentionné Connor McDavid au passage. Je pense que c'est une situation qu'on va devoir regarder très près du côté des Oilers d'Edmonton. Tu peux pas te permettre de perdre un McDavid pour rien.
Non.
Eux, le deadline, là, il est pas mal plus rapide. Si Connor McDavid, et là, on le sait qu'entre Stan Bowman et son agent, les discussions sont fluides, mais eux, ils ont pas le choix que de s'entendre avec lui, sinon ils vont devoir considérer l'échanger. Là.
Ben oui.
Dans ma tête,
ben oui.
Ils peuvent pas espérer gagner une Coupe Stanley. Puis, ça n'a pas marché, ben, on l'a perdu pour rien.
Ben non, tu dois capitaliser. T'as pas le choix, là.
Tu le signes ou tu l'échanges au plus offrant d'ici là. Parce qu'imaginez, les Oilers qui auraient eu 4 premiers choix au total, Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins, Neil Yakupov, Connor McDavid, 15 ans plus tard, tu te réveilles après tout ça, ils sont tous partis.
Puis t'as pas
eu une Coupe Stanley, ce serait absolument catastrophique, là.
Ouais.
Mais ça doit commencer à chauffer du côté d'Edmonton parce que. Rappelez-vous, l'été passé, au bilan de fin d'année des Oilers, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents avec McDavid. Puis je pense que c'était normal aussi. Ça faisait pas très longtemps qu'il avait été éliminé de la finale de la Coupe. Mais c'est gros ce qu'il joue, lui. Parce que quand même, McDavid, il fait un peu face à une question que lui... Tu sais, c'est pas juste comme Kaprizov que c'est une question d'argent. Lui, il a un héritage en tant que joueur générationnel à prendre en compte. Tu sais, on parle de lui comme un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey. Mais si tu veux être parmi les plus grands, si tu veux être avec les Wayne Gretzky, avec les Mario Lemieux et compagnie, t'as besoin de Coupe Stanley. T'sais, l'héritage à Connor McDavid va pas être basé sur les points, sur l'argent qu'il a fait. Au final, ça va être basé sur y a-tu réussi à gagner une Coupe Stanley?
Moi, je pense qu'il n'en a rien à cirer de son héritage. Il veut juste gagner. Lui, il s'en fout un peu de la trace qu'il laisse dans la Ligue nationale. Là. Lui, c'est un gagnant et il accepte pas de pas gagner.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire plus dans cette optique-là que oui, Ouais, t'as raison que. Mais il veut gagner, justement. Kirill Kaprizov, on en parlera plus tard.
Ouais.
Pas sûr que son objectif principal, c'est de gagner une Coupe Stanley.
Non, pas non. Mal sûr, je te dirais.
Ouais. Ouais.
Ben non, c'est vrai. Puis aussi, le fait qu'il soit plongé dès le début de sa carrière dans un groupe où ça allait être lui le meneur, ça allait être lui le capitaine jeune.
Dès qu'on l'a repêché, on savait que c'était lui le futur. Là.
Exact, tu sais. Puis la frustration vient avec la maturité aussi. Plus tu grandis, c'est sûr que l'accumulation de défaites, c'est pas bon. Mais en même temps, si t'as personne pour t'épauler qui a gagné ou qui a connu la victoire dans ce sens-là, c'est la Coupe Stanley. Ça aussi, c'est difficile parce que comment tu veux amener ton groupe quand tu passes tellement proche? Toi, tu dois te questionner en tant que capitaine.
Pourri, là, c'est pendant des années.
C'est ça. Puis toi, tu dois te demander en tant que capitaine quand ça fait 2 ans de suite que tu frôles la Coupe Stanley. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je peux amener? Puis il y a des frustrations individuelles qui viennent avec ça.
Mais est-ce que les Oilers ont fait le travail cet été pour patcher ces trous-là, pour pallier au manque dans l'effectif?
Ben, non. Pose la question, puis tu vas savoir pourquoi que McDavid n'a pas encore signé.
Exactement.
C'est ça. Il ne faut pas t'aller chercher trop loin. C'est parce qu'au moment où on se parle, il regarde sa formation, puis il dit, écoute, je viens de faire 2 finales de la Coupe Stanley.
Ouais.
Est-ce que les Oilers me donnent la meilleure chance de gagner la Coupe? Je suis pas sûr que la réponse, c'est oui. Parce que la raison pour laquelle les Oilers ont fait 2 fois la finale de la Coupe Stanley, c'est parce que je suis dans cette équipe.
C'est ça, exactement.
Ils font-tu les séries? T'sais, on va dire que t'enlèves Connor McDavid de cette équipe-là, puis disons que c'est juste l'équipe à Draisaitl. Est-ce que les Oilers d'Edmonton font même les séries? Je suis pas sûr. Là. Sincèrement, année après année. Peut-être, non, là, par la peau des fesses, là, mais c'est pas de gardien. Une ligne bleue.
En fait, des mauvais salaires. Ouais.
Evan Bouchard est un gars offensif. Le reste du temps, il peut être très dangereux à sa propre équipe. Le reste de la ligne bleue, qui est à Ekholm, tout ça. Mais...
Darnell Nurse est capable de tirer son bout de chemin.
Mais il est payé comme un numéro 1, mais c'est un numéro 4.
Mais oublie son salaire une minute. Ouais. Sur la glace, il est capable de faire le travail.
Ouais.
Ouais.
Mais il est payé beaucoup trop cher.
Fait que on va donner des notes. Disons, les gardiens de but des Oilers, c'est un C. La ligne bleue, B.
Ouais. Max.
B-moins, ça dépend des soirs.
Brett Kulak, qui des fois peut faire un bon travail.
Brett Kulak, qui jouait top 4, on n'avait pas Ekholm. Ekholm, quand il est arrivé, il a été accueilli un peu comme un sauveur. A super bien fait à ses débuts, mais là, tu vois que là, je le rattrape un peu.
Puis en attaque, enlève McDavid, enlève Draisaitl, puis c'est Famelix. Je donnerais quasiment un D. Là. On mise sur pas de Colzin, puis...
Mais c'est Zach Hyman, c'est Evander Kane, c'est Connor Brown.
Jeff Skinner l'an passé. Evander Kane qui est d'ailleurs. Ça, c'est un joueur de moins qui a quitté.
Puis on espérait que Victor Arvidsson, que Jeff Skinner viennent faire le travail, mais là, ça nous a coûté Broberg, ça nous a coûté Holloway.
Là, c'est Isaac Howard. On prend des chances sur des gars à faible coût.
Mathieu Savoie, en espérant
qu'ils excèdent les attentes, mais tiens, à un moment donné, un choix de fin de premier tour, tu peux pas t'attendre à ce que sur son contrat d'entrée, il y ait un impact comme ça dans la LNH.
Ben, peut-être pour vrai pour Isaac Howard. Moi, je pense.
Penses?
Ben, ça dépend. Mettons que tu le fais jouer avec McDavid, peut-être que tu recrées. Ouais. Je compare les anges. Là,
il a gagné l'OB Baker, lui, en plus.
Il a gagné l'OB Baker.
Tu sais, mettons, Chris Kunitz, c'était beaucoup plus vieux, mais il complétait Crosby à merveille. Est-ce que Isaac Howard peut se retrouver? Zach Hyman. Aurais-tu déjà parié que Zach Hyman allait faire 50 buts?
Non, Zach Hyman, c'est probablement la meilleure.
Au final, c'est un peu ça. Tu espères qu'Howard développe une chimie, puis que la rondelle.
C'est pas une façon de bâtir une équipe.
Non,
c'est ça mon point. C'est comme. Tu sais, même, on parle justement des Pingouins de Crosby, Malkin, tout ça. Même quand ces gars-là étaient jeunes, on a quand même su bien les entourer. Tu sais, t'avais des Bill Guérin, t'avais des Pascal Dupuis, gars qui connaissaient un peu leur rôle, puis que oui, c'était pas les plus gros noms possibles. Tu parles de Chris Kunitz. Chris Kunitz, c'était quand même déjà un gagnant de la Coupe Stanley.
Oh ouais,
c'était un gars qui était établi, c'était pas n'importe qui. Là.
Aglin Bonino, c'était des bons joueurs de soutien. Puis Gassel, il fait du bon boulot.
Exactement.
Puis on avait pas
Patrick Hornquist.
Exact. Ouais. On donnait des premiers choix pour à chaque année aller chercher un ailier. Ça a été Mariana Sa, ça a été Jason Zucker, tu allais là. Il y en a eu une couple quand même qui ont pas assez avec les Pingouins, c'est pas fou. Je vous ramène sur les Oilers. Tu as parlé d'expérience. Combien de joueurs de l'édition des Oilers a gagné la Coupe? T'sais, on ne s'entoure pas vraiment beaucoup de gagnants. Le seul qui me vient en tête, c'est Corey Perry.
Ouais, c'était.
Il est plus là, en plus. Là.
Ben oui, c'était le seul, mais c'est ça. Mais j'aime que tu sois allé là parce que justement, tu sais, quand on a porté Ekholm, on a cette expérience de vétéran-là, mais on n'a pas cette expérience de gagnant-là.
Non.
Effectivement, c'est bizarrement choisi.
Jeff Skinner, là. C'était la première fois que je faisais série l'année passée.
Ça,
là.
C'est fou.
T'sais, bien beau l'expérience, mais au final, tout le monde le sait que la vitesse prend une autre coche rendue en série. C'est un jeu qui est différent. Tu peux pas te tourner vers Jeff Skinner, là. T'es
non,
un,
c'est ça.
T'étais comme, hey, comment que c'est, Jeff? Je sais pas, je suis dans le même bateau mais que c'est toi, vrai. C'est juste je suis plus vieux.
Je pense que le seul qui avait goûté à la finale, outre Perry, c'était Adam Henrik avec les Kulak. Devils. Puis ouais, Brett
Kulak.
Ouais, puis Brett Kulak. Ouais.
Ah non, c'est, tu fais, t'as raison de le dire, puis on a juste à le voir avec le Canadien l'an passé, ils ont fait 5 matchs en série, mais t'as l'impression que cette expérience-là qui a été donnée à, au groupe de jeunes, ça va être vraiment riche pendant longtemps. Fait que les Oilers qui arrivent avec plein de gars un peu focal, on s'entend, qui comme n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience en série, c'est pas des vétérans qui sont passés par là, ils vont montrer le chemin, ça aide pas McDavid non plus. Fait que moi,
non, c'est ça.
Je pense que McDavid... C'est parce que le problème avec lui, c'est qu'au final, ce qu'il va décider, c'est le parcours en série des Oilers, mais les Oilers vont devoir prendre bon, la décision avant.
Mais oui, ouais, c'est avant.
Ça. Fait qu'eux aussi, ils vont avoir besoin d'une...
Règle. Faut que ça se règle là.
T'as pas
ça...
le choix, là.
Tu peux pas faire comme Marner 2.0, là. Tu peux pas faire
ça, c'est
comme
déjà
il y a
trop
plusieurs
long,
années, Tavares avec les Islanders,
ah oui.
Stamkos avec le Lightning. Finalement, ça a bien viré. Il a signé Stamkos, mais c'est trop un gros risque. Les Maple Leafs vont s'en mordre les doigts avec Marner.
Ben oui.
Les Oilers ne peuvent pas se permettre de faire la même chose avec McDavid.
Ben, ils ne sous-estiment pas Nicolas Roy avec les Maple Leafs de Toronto. Mitch Marner, Nicolas Roy.
T'as raison. Non, mais à tout respect
ben
pour Nicolas
ben
Roy,
ben
qui
non,
est
non,
un bon
comparable.
Joueur de hockey, c'est incomparable.
Mais
non,
c'est saisir l'importance exactement. T'sais.
Moi, c'est parenthèse. Là, j'en reviens pas du monde qui ils sont comme, ah oh non, t'ajoutes Nicolas Roy, Machelli, puis
Dakota Joshua.
Dakota Joshua, puis ça équivaut à la production à Mitch Marner. Hey, come on, c'est un gars de 100 points.
Non, non, c'est ça.
C'est un gars qui est bon défensif.
Ben oui,
bon
surtout. Là,
mais je sais que les gens au Québec aiment s'acharner sur Mitch Marner.
McLeod.
Mais, tu sais, il va feeder Jack Eichel à Vegas.
Ah non, mais oui, ce duo-là va être incroyable.
Ça va être beau à voir.
Parlant de Vegas, avez-vous pensé l'article de Chris Johnson? Ça a l'air que Carter Hart se rapprocherait beaucoup de Vegas. Ça va être intéressant à surveiller. Hein? Ça va faire de petits remous un petit peu. Là.
Mais ça m'étonne. En tout cas, ça m'étonne pas que Vegas ait joué dans ces plates-bandes-là.
C'est
justement.
Leur genre.
Ouais, c'est leur genre. Puis.
À la Robin Leonard.
C'est ça. Puis ils ont gagné une coupe avec Aiden Hill. Tu sais, je me dis que Carter Hart, là, s'il est capable de reprendre où il a laissé un peu, parce qu'on s'entend, quand il est arrivé à Philadelphie, c'était un gars qui a été mis dans une situation où il n'y avait aucune solution. C'est comme, tu vas apprendre, inquiète-toi pas, tu vas te faire scorer, mais tu vas grandir et tout. Et quand il est parti, à cause de tout ce qui s'est passé, il arrivait à cet âge-là où là, il devenait comme solide parce qu'il venait de passer à travers des blessures puis parce qu'il venait de reprendre sa confiance.
Ouais,
j'ai hâte de voir ça avec une grosse défensive puis une grosse production à l'attaque.
La comparaison est pas bonne parce que le talent est pas comparable du tout. Là. Mais tu sais, un peu comme Carey Price, il est arrivé vraiment jeune dans la LNH. Un petit peu de succès rapidement. Ensuite, il a fait face à de l'adversité. Puis là, vers la fin... Ça s'est comme mieux déroulé pour lui, mais là, ça va faire presque 2 ans qu'il n'aura pas joué au hockey.
Ouais.
Je sais pas après ça ce qui s'est passé dans sa vie personnelle, tout ça, peut-être d'un point de vue santé mentale, tout ça, à quoi il a dû faire face.
Ouais.
Tu sais, je pense que dans la vie, on croit tous aux deuxièmes chances, mais tu n'es pas obligé non plus d'être la personne qui te donne la deuxième chance. Les Golden Knights le font,
ouais.
Puis c'est Vegas, c'est pas Edmonton, c'est pas Montréal.
Mais c'est un bon marché pour ça parce que, tu sais, les partisans, il y en a. Assurément, il y a des gens qui habitent Vegas, qui capotent sur les Golden Knights, c'est sûr. Mais on s'entend que Vegas, c'est aussi une ville de va-et-vient, c'est une ville de tourisme, c'est une ville qui maintenant a la NFL, c'est une ville qui éventuellement aura le baseball, c'est une ville qui a l'UFC.
Une équipe de la WNBA.
Mais tu sais, au final, t'as de plus en plus d'attractions qui retiennent l'attention. Et là, on parle même pas de spectacle de musique,
non,
on parle pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent à Vegas. Et il n'y a pas le congléra l'amalgame de journalistes.
C'est un fait divers, Carter Hart qui se joint au Golden Knights. Tandis qu'à Montréal, on en parlerait pendant des semaines et des semaines.
Semaines?
Je veux dire...
La politique est rentrée dans le tas. L'Assemblée nationale...
La ministre Charrette, elle aurait fait de quoi par rapport à ça aussi.
Souvenez-vous, Logan Mayou, c'est la sortie du corps du sport.
Justin Trudeau a fait
ça.
Ça fait du bruit, je pense, par rapport à ça.
Fait que, tu sais, honnêtement... Good for him, là, Carter Hart. Là, regarde, t'as été reconnu non coupable, parfait. Regarde, t'es acquitté, c'est bon, la justice a décidé. Je suis qui, Anthony Desaulniers, pour penser le contraire?
Exact.
J'ai le droit de le penser, mais au final, tu sais, c'est correct. tu as le droit de rejouvenir jouer au hockey, good for you. Mais Vegas, je pense que c'est un bon endroit. J'ai juste hâte de voir comment on va le comment on va réagir lorsqu'il va se promener de ville en ville.
Ouais, comment qu'on va le traiter exactement.
Quand il va aller jouer à Toronto, quand il va aller jouer à Philadelphie, quand il va aller jouer à Calgary, Vancouver, Montréal. Les journalistes vont être là puis vont l'attendre. Là. L'équipe va devoir le protéger, pas le sortir. Là,
c'est sûr. Non, mais ouais. C'est pas la première fois qu'on voit des athlètes qui ont fait peut-être des erreurs dans leur carrière d'un point de vue personnel, puis qu'après ça, ils ont fini par jouer par la suite. Là. Tu sais, Danny Heatley, on sait tout ce qui s'est passé avec lui. Mais non, ça va être intéressant à suivre. Puis là, pour faire un lien avec un autre gardien, et justement pour revenir aux Oilers d'Edmonton, Connor Ingram, pensez-vous qu'il... Ben, pas que c'est le sauveur, là, mais pensez-vous que c'est quelqu'un qui éventuellement peut être le gardien numéro un des Oilers? Est-ce que ça les améliore vraiment tant que ça d'avoir Connor Ingram?
Moi, je pense que sur strictement niveau performance, j'aime bien Connor Ingram. Je le trouve
plus
bon.
Que Skinner?
Ouais. Mais il est plus constant.
Mais le problème, c'est qu'un peu comme Skinner, c'est ça. C'est des gros matchs, des matchs difficiles. Le problème, c'est que je pense que Skinner, pour avoir entendu une couple d'entrevues, il en a d'ailleurs donné une à 32 Tots il n'y a pas longtemps, c'était super bon. Entre les deux oreilles, ça a l'air bien aller. Connor Ingram,
ça a l'air de...
il sort du programme d'aide, ça a l'air d'un drôle de moineau. Là. C'est ça que je suis comme... En même temps, c'est pas comme si on payait cher du côté des Oilers. Là. Considération future, ben non, plus retenue de salaire.
C'est comme tous les autres qu'on a mentionnés, ils prennent une chance sur quelqu'un. Ben puis, eux, ils visent un risque bas, mais avec un potentiel élevé que ça fonctionne.
Ben, par exemple, Chicago puis Spencer Knight, même chose, on sort du programme d'aide, les Panthers décident de t'échanger. Là, t'as le rôle de numéro
plus
un.
Spencer Knight, là, il a quand même été échangé d'une transaction digne de
ce Oui, je parle de, en termes de nouveau départ, d'assets, là, si tu veux. Là. C'est quand même une belle opportunité pour lui. Là.
Ah oui, puis il a signé un contrat en plus.
Exact. Ouais. Spencer Knight, c'est Seth Jones. Là. C'est quand même, pas pire retour. Ce qui est intéressant avec Spencer Knight, je trouve, c'est son contrat. Il n'a pas signé à long terme.
Non.
T'sais, Spencer Knight, il a signé 3 ans, ça l'amène en 2029, dans une ère où la plupart des gardiens de but, les Oettinger, le Simone et compagnie, la plupart des Swayman sont signés sur le long terme.
Ouais.
Si Knight, ça fonctionne, lorsqu'il va redevenir joueur autonome sans compensation, ben là, il va pouvoir dire, écoutez, là, c'est moi ou c'est personne, là,
ouais, c'est
ou
ça.
C'est via transaction. Je trouve quand même que c'est intéressant de miser sur lui-même plutôt que d'y aller pour le long terme et que là, le plafond salarial augmente puis finalement, t'es en dessous de ta valeur sur
ça
le marché.
Ça arrive à une fenêtre intéressante où là, les Blackhawks, dans 3 ans, sont supposés commencer à être bons, s'entend. Fait que là, il va pouvoir maximiser sa valeur. Mais tu sais, ça, c'est un gardien qui est tellement talentueux. J'ai hâte de voir son développement parce que ça pourrait être un gros facteur dans la réussite ou non des Blackhawks de Chicago. Tu sais, mine de rien, c'est pas facile de trouver ton gardien du futur.
Ce qui est intéressant avec les Blackhawks, c'est, je sais pas si vous avez vu ça passer, mais Carl Davidson a comme laissé entendre que Lucas Reichel était sur le marché.
Ouais.
Tu sais, c'est bien beau de repêcher des joueurs de talent, mais à un moment donné, il faut que ces joueurs-là soient capables de passer à l'étape suivante. On avait beaucoup d'aspirations et j'en ai encore pour Kevin Korchinski. Il semble être dépassé de beaucoup dans la hiérarchie par Sam Rinzel. Ouais,
j'ai été impressionné par Sam Rinzel.
Moi aussi,
je pense que c'est un sérieux candidat au Calder cette année. Ouais. Là. Artem Lefchunov est là. On a vu Oliver Moore, on a vu Frank Nazar. Il y a quand même des jeunes qui poussent évidemment pour épauler Connor Bedard. Mais souvenez-vous, Reichel, parce que je reviens à ça à la base. Au début, là, quand on l'a amené dans la Ligue nationale de hockey, ça se passait bien.
Ouais.
Mais on ne voulait pas diminuer nos chances de gagner la loterie Bédard. Alors, on lui faisait faire le yo-yo entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, alors qu'il était à l'époque de calibre de Ligue nationale. Il performait bien. Et finalement, tu vois, ça a scrappé son développement complètement. On est en train de l'échapper, le jeune. Tu sais, des fois, il faut faire attention. Là, c'est bien beau d'améliorer ses chances à la loterie, mais pas au détriment de jeunes talents qui devraient faire partie aussi de ton futur. Là.
Ben non, puis même le fait d'avoir échangé Kirby Doc puis d'avoir échangé Alex DeBrincat, ça, à long terme, est-ce que ça a vraiment aidé l'équipe tant que ça? Je comprends que ça nous a permis de couler puis repêcher Connor Bedard, mais moi, les Blackhawks, je suis pas convaincu. T'sais, tu me demandes les Blackhawks ou les Sharks... qui va avoir le plus de succès à long terme, puis c'est pas compliqué, les Sharks.
Ben oui, sur la qualité des espoirs, ça n'a pas d'allure, mais en même temps, il peut y avoir des belles surprises à Chicago, justement, là, les Nazar, les Oliver Moore, Sacha Boisvert, avec tout
mais
ça.
Mais on a moins de gars avec, je dirais, un gros upside comparé aux Sharks.
C'est gamme, je vais appuyer mes dires avec des stats, je suis retourné justement en 22-23. Avec les Blackhawks de Chicago, Lucas Reichel, 7 buts, 8 passes, 15 points en 23 matchs.
Impressionnant.
15 en 23, alors qu'il avait très bien performé dans la Ligue américaine. L'année suivante, en 65 matchs, 5 buts, 11 passes, 16 points. Il a fait un point de plus en 40 matchs de plus.
C'est ça.
Ouais.
Ça l'a complètement mêlé. Complètement. Il était de calibre Ligue nationale de hockey, mais on ne voulait pas parce qu'on voulait améliorer nos chances. Et finalement, on l'a eu, Connor Bedard. Fait que ouais, c'est ouais. correct. Là. La vie est belle.
Oui, puis je trouve que les probabilités sont tellement rendues basses avec la loterie dans la LNH. C'est dur de tout miser sur un tanking où tu vises juste un joueur. Là. Cette année, on a Gavin McKenna. Tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier Gavin non, McKenna et ouais, espérer le repêcher.
Keaton Veroff, il y a quand même 3-4 solides encore. Là.
Exactement. Alors que, ouais.
C'était le même principe avec Bedard. Ouais. Tu rates Bedard, tu ramasses Carlson ou tu ramasses Fantilli. T'es pas dans le trouble.
Ben, pas du
sauf
tout.
Si tu ramasses David Reinbacher.
Écoute, non, mais je veux pas marchaner sur le gars, mais cette année-là, vous me connaissez, là, moi, ouais. cette année-là, j'étais comme Colin Debin. Ouais. C'est Alex Belzile qui nous fait gagner. C'est Rem Pitlick, c'est Mike Hoffman, c'est Raphaël Harvey-Pinard. C'est pas le futur de l'équipe.
Ben non.
Si au final, c'est Caulfield, c'est Suzuki, c'est Goulet qui te font gagner, tu dis bon, mais regarde. Pas grave, au moins on développe les joueurs, mais là ce sont des joueurs marginaux qui ne seront plus avec l'équipe, qui ont fait en sorte qu'on a c'est correct Reinbacher, puis on verra, puis peut-être ce sera un excellent défenseur pour le Canadien, mais on a quand même raté notre coup avec trois élites attaquants.
Ah oui,
c'est mon opinion.
Si David Reinbacher devient, je sais pas, un solide 3-4e défenseur dans la LNH, au moins on aura sauvé la mise, mais on est loin d'être convaincu en ce moment. Les problèmes de santé, le court échantillon qu'on a vu dans les matchs pré-saison, c'était pas convaincant du tout.
Non.
Tu sais, on a visé le simple du côté du Canadien de Montréal. Peut-être le double, ouais, mais on a...
On s'est assuré de frapper en lieu sûr.
C'est ça.
Puis notre gars en lieu sûr, au moment où on se parle, il est encore à l'infirmerie.
Ouais.
Oui, il peut pas encore courir autour des sentiers.
C'est
blessé en allant au premier but.
Non, mais c'est fascinant quand tu y penses. Là. On ouais. a voulu jouer de prudence ouais. et aussi on a voulu aller chercher un morceau de casse-tête qui est plus rare. Ouais. On l'a vu, là. La transaction de J.J. Peterka pour Michael Kesselring est un bon exemple. Mm-hmm. Logan Mailloux pour Zachary Bolduc est un autre bon exemple. Les défenseurs droitiers ont la cote.
Ouais.
J'achète, je suis d'accord.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ça reste qu'on avait du talent élite qui aurait été potentiellement à notre disposition chez le Canadien. En même temps, c'était Kent Hughes puis Jeff Gorton. Tu peux pas descendre dans le vestiaire et dire arrêtez de gagner. Là.
J'en ai une pour vous. J'ai lu un papier de Mathias Brunet dans les dernières semaines. Puis là, il comparait un petit peu les différents défenseurs qui ont été repêchés haut. T'sais, on a eu des Iskanen, on a eu des Cam McCarr, on a eu des Owen Power. Puis là, il comparait leur développement, tout ça. Et là, de fil en aiguille, il est un peu arrivé au point de. Ouais, peut-être que David Reinbacher va plus se diriger à être un genre de Adam Larson, okay, qui est. Défenseur droitier, rien de très sexy, mais il joue beaucoup de minutes. Est-ce que vous, là, si jamais David Reinbacher devient Adam Larson, vous êtes satisfait?
Non.
Moi non, non. non plus. Là.
Non.
À son rang de sélection, mais non, c'est ça. Là.
Il risque de jouer 1000 matchs dans la LNH.
Mais le rang de sélection va toujours exact. Suivre un joueur.
C'est une étiquette ouais. automatique, surtout avec ce qui est venu après. Là,
exact.
Juraj Slafkovský, c'est la même chose. Là. Ça s'applique aussi. Là.
Faut le comparer au gars choisi derrière lui.
C'est normal. Là.
Ben oui.
Mettons que le gars il est repêché en 3e ronde versus en 5e ronde.
Ouais.
Ça, c'est tel que tel. Mais quand t'es repêché top 10, ça implique que l'équipe qui t'a repêché a connu une année difficile. Ça implique que ta base de partisans, pendant une année complète, a souffert, te regardé perdre. Ça prend le nanan au bout de la ligne.
Ben oui, pas le choix.
Puis ce nanan-là, c'est un choix top 5 qui doit faire partie des futurs succès de ton équipe. Et Reinbacher, il est condamné à devenir un joueur important pour le Canadien de Montréal. Sinon, ce sera un échec.
C'est ben ça. Oui.
Je pense pas que c'est un défenseur de première paire. Je pense que ça peut être un bon défenseur de deuxième paire, mais c'est quand même.
Ouais.
On vise le simple.
Mais tu sais, ben oui. Si. Ok, je fais une comparaison. Quand Slafkovský s'est fait drafter premier au total, s'il avait été dans une meilleure classe, est-ce qu'on serait plus sévère dans les attentes de envers Slafkovský directement?
Parce ouais, que, mais il n'aurait pas été pris premier.
Ouais, c'est vrai. Mais là, mettons, on prend dans un monde parallèle où. Ça aurait été le cas. Là.
Mais ça commence déjà. Tu sais, Logan Cooley, en termes de production, il est déjà en avance. Puis en termes de constance, il est en avance sur Slafkovský.
Mais regarde Simon Nemec, ça va pas bien.
T'sais. T'as raison.
Ouais. Exact.
Cutter Gauthier, ouais. Shane Wright,
on
Buff.
Sait pas. C'est
vrai qu'il est chanceux qu'il n'y a pas nécessairement encore vraiment de gars derrière lui que, qui lui pousse dans le derrière.
À part, c'est ça, à part Cooley, peut-être. Cooley. Ouais.
Exact. Non, mais c'est ça. C'est, on va toujours comparer la force de la cuvée. Tout le monde se souvient de Costin en 2003.
Ben oui, ben
c'est
ça.
C'est la cuvée légendaire de la Ligue nationale de hockey. Ouais, le Canadien se retrouve avec AK-46.
Littéralement.
C'est ça. C'est ça qui est ça pour... En tout cas, les gars, je vais vous amener sur un autre sujet. Ryan Huska signe une prolongation de 2 ans avec les Flames de Calgary. J'ai hâte de voir les Flames. Tantôt, on parlait d'une équipe qui a un peu de la difficulté à trouver son identité. L'année dernière, on a manqué de justesse les séries éliminatoires. Et là, on a acheté, dans les années précédentes, Huberdeau, Kadri, Uyghur. On est allé chercher vraiment. On y va pour la coupe. Là, finalement, on voit l'inverse. On a laissé partir des Elias Lindholm, on a laissé partir des Jake Markstrom, on a laissé partir quand même des joueurs, évidemment, Sean Monahan avec le Canadien. T'sais, on veut comme reformer la formation. Il y a même eu des rumeurs pour Nazem Kadri à un certain moment cet été. Ouais. Moi, je pense que le plus gros nom des Flames de Calgary, ce sera Rasmus Anderson. Ouais. C'est un nom à surveiller pour le marché des transactions cette année.
Oui, parce qu'en plus, les Flames sont comme dans un genre de no man's land, mais qui est pas facile à naviguer parce que t'as Huberdeau qui fait encore 10,5 millions jusqu'en 2031. Kadri fait 7 millions encore pour 4 saisons. Ils ont des lourds contrats, mais ils ont des jeunes. T'sais, ils ont Zane Parekh, Dustin Wolf, qui est, je pense, un des meilleurs jeunes gardiens de la LNH.
Connor Zary, j'aime ce qu'il fait, Connor Zary.
Ouais.
On a vu un petit peu son éclosion tranquillement. Ouais.
Fait que là, t'as comme une décision à prendre avec Rasmus Anderson. Je pense que c'est pas mal clair qui va être échangé, mais il faut que tu obtiennes beaucoup pour lui. Puis ça va être un jeu intéressant de négociation parce qu'en plus de ce qu'on entend, Rasmus Anderson est très sélectif dans où il veut aller. Il aurait mentionné quelques marchés, je pense Vegas, New York, LA notamment, où il veut aller là. Là, les Flames, ils perdent un petit peu de valeur dans une transaction éventuelle s'ils forcent leurs mains comme ça. Mais moi, je voudrais pas être le DG des Flames Craig Conway, pour de vrai, là, parce qu'en plus, leur pipeline d'espoir n'est pas pleine.
Non, exact.
L'avenir n'est pas rose à court et moyen terme.
T'as Cole Reshny, t'as Zane Parekh,
Andrew Bashaw,
c'est des joueurs comme ça, mais le problème avec les Flames, c'est que si, mettons, t'es dans le coup et t'as pas encore échangé Rasmus Anderson, tu fais quoi?
Mais c'est ça, mais je veux rajouter là-dessus, c'est le fait, moi, je pense qu'on s'attendait pas à ce que Dustin Wolf soit aussi fort. Non, l'année passée, et que c'est là que le doute a semé, et que c'est là qu'on doit comme réajuster. Est-ce qu'on fait une reconstruction complète ou on fait le fameux retool?
Mais tu peux pas faire une reconstruction complète avec Huberdeau et Kadri sur tes livres.
Non, là, c'est
sûr.
Parce
qu'ils sont pas... Huberdeau, il est pas échangeable.
Non,
avec son contrat, c'est la réalité, il est pas échangeable.
Non, ouais, c'est ça, on assume qu'on tombe, puis qu'on attend la fin de cette phase-là, puis après ça, on va de l'avant.
Puis tu sais, je veux dire, mettons, t'es à la tête des Flames de Calgary. Tu regardes depuis que l'équipe s'est rendue en finale de la Coupe en 2004. T'as pas d'hier, ça fait 20 ans.
Ils ont pas gagné
là.
Beaucoup de rondes. Hein,
ils ont gagné 3 rondes de série.
Hey boy.
Je parle pas de participation aux séries. Là. Je parle vraiment d'avoir gagné une ronde. 3, là. Mm. C'est pas beaucoup, là.
Puis on a eu des reconstructions pendant ce temps-là. T'sais, celle la plus récente avec Monahan, Johnny Gaudreau, Sam Bennett. Exact. Ça a pas marché.
Matthew Tkachuk.
Avant ça, on avait eu des joueurs de talent. T'sais, Dion Phaneuf, Jerome McGinley, tout ça, mais ça, c'est une franchise... Pour moi, ils me font beaucoup penser aux Canucks. Là, de sont comme constamment dans cette genre de bulle-là de... On est souvent assez bon pour faire les séries, pas assez pour aspirer aux grands honneurs, mais on veut jamais être complètement mauvais, vider le club, puis faire une vraie reconstruction, puis partir de rien.
C'est là, je pense, que le propriétaire rentre en ligne de compte. Parce que
Jeff Molson a réussi à faire quand même quelque chose de...
Ouais.
Mais c'est parce que Jeff Molson le savait... qu'il y aurait quand même des gens dans le building, même si on allait à travers une reconstruction. Mais ce qui est intéressant avec la reconstruction du Canadien, c'est que l'intérêt des gens a décuplé. Tu sais, oui, le Canadien, ça pognait, là, le 10 ans. Là.
Ouais.
Puis là, peut-être que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose aussi, mais on le sent que les gens ont faim de hockey, là,
ben oui.
Parce que les gens ont vécu des années difficiles.
C'est ça.
Et là, on parle de ça comme si on avait raté série pendant 25 ans. On était en finale de la Coupe en 21. Juste le rappeler à tout le monde. Là.
Alors que les Flames et les Canucks, ça fait pas mal plus longtemps que ça.
Mais il y a des équipes comme ça qui peuvent pas se permettre de piquer du nez complètement parce que les recettes et les revenus ne seront plus au rendez-vous. C'est un élément quand même qu'on est chanceux à Montréal pour ça.
Ouais, puis c'est sûr que Calgary, c'est quand même un marché canadien. Je pense pas que... Le building sera jamais vide, mais t'as pas le support comme inconditionnel que t'as nécessairement à Montréal.
Mais non, parce que t'as 2 équipes dans la province aussi.
En plus, pour une petite province, c'est la part du gâteau. Le gâteau est plus petit.
Ouais, exact,
le gâteau
exact.
À partager.
Mais exact. Ça reste qu'il y a des formations que c'est la réalité. Regarde les Pingouins, là, présentement. Là.
Ouais.
On se la pose la question.
Ouais.
Est-ce qu'on laisse partir Crosby? pense que dans les bureaux, on a déjà pris notre décision. Crosby veut peut-être pas partir. Mais le propriétaire, lui, en haut, par contre, il l'entrevoit, ça. Fenway Sports Group viennent de vendre des Pingouins.
Ouais. C'est ça.
Parce que quand Crosby va partir et qu'on sera dans une reconstruction, disons, pour 3-4 ans, ça se peut que ce soit difficile d'asseoir des gens dans les estrades.
Exact. Exact.
C'était
non,
vide. Pittsburgh, c'était mort. Avant le mieux, puis avant Crosby, les deux fois, la franchise était en déroute, puis on a été sauvés par des joueurs
des joueurs de franchise. Et là, qui arrive, les gars? Gavin McKenna. Qu'est-ce qui se passe avec les Pingouins?
Ça
va pas bien.
Hey, je serais tellement fâché si McKenna
À chaque 20 ans, en plus, quasiment 84, Mario Lemieux. Après ça, 2005, Sidney Crosby.
Là, 21 ans.
Et, ouais, 21 ans. Et là, 2025.
Fait que surveiller le repêchage de 2047.
Ouais, c'est ça. Ouais,
2026
et 2047.
Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je trouve que des fois, c'est plate que ce soit tout le temps les mêmes équipes. Tu sais, Connor Bedard,
les Blackhawks.
On venait d'avoir Joe Taze, on venait d'avoir Keane, on venait d'avoir des coupes.
Pensant là, les Sabres, ça fait 14 ans qu'ils sont en reconstruction, puis personne.
Ouais, mais les
Jack Eichel, mais...
Tu sais, ils ont JJ Peterka, puis ils ont décidé de le gaspiller. Fait que,
non, c'est ça.
Ils me feront pas pleurer, les Sabres.
Imaginez si McKenna s'en va à Buffalo, par contre. Pauvre lui.
Oh, ouais, ça serait...
Ça va être vraiment intéressant à surveiller où est-ce qu'il va débarquer Gavin McKenna. Ce sera un
L'impact
sujet pour,
qu'il va avoir directement. Ça
pour un autre podcast. Et les gars, juste avant qu'on complète l'édition de ce matin, concours.s et CLM vous offrent la chance de gagner un ensemble de pneus divers CLM avec installation gratuite dans un garage.s. Une valeur totale de 1 000 $. Comment est-ce qu'on fait pour participer? C'est facile. Rendez-vous sur notre page concours sur bpmsport.ca. Suivez les pages BPM et .s sur réseaux sociaux. Le concours se termine le 19 octobre. On va dire dans le club du matin le gagnant le 20 octobre au matin. Tous les détails sont sur le site web .s, le garage de confiance pour un entretien complet de votre véhicule. La fin approche de notre podcast. La fin est arrivée pour Max Pacioretty. C'est la retraite pour l'ancien capitaine du Canadien de Montréal. Écoute, il y a eu des bons moments. Moi, je me souviens d'un but marquant contre le Lightning de Tampa Bay. Je pense que c'était en prolongation ou en fin de match pour briser l'égalité. Tu sais, il y a des moments où est-ce que Pacioretty m'a fait vivre de bonnes émotions. En contrepartie, il faut l'admettre, ça s'est un peu mal terminé avec l'organisation.
Là. Ben oui, puis il a envoyé des pointes envers l'équipe quand il était à Vegas puis quand il était avec les Leafs. Tu sais, c'est quand même fou de penser que ce gars-là a été capitaine du Canadien de Montréal. Ça a été un marqueur de 39, là, presque 40 buts, des saisons de 35 buts. Puis, il n'y a personne vraiment qui est triste de voir prendre sa retraite. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Moi, mon joueur préféré, c'est Max Pacioretty. »
Puis, il y en avait du jersey de Pacioretty, là.
Ouais. Mais il n'y a pas de personnalité.
Personnalité.
C'est ça qui est dommage avec le gars, parce qu'il y avait tellement de talent. Il y avait le...
Puis il n'y a jamais eu de joueur de centre incroyable non plus avec qui il pouvait jouer, à part David Dernier.
Salut David Dernier.
Si on l'avait entouré avec un vrai joueur de centre, quelle était la limite de Max Pacioretty en santé à son apogée?
Combien de buts dans un filet désert est-ce qu'il aurait marqué?
non, mais c'est vrai.
Mais t'as raison. C'est quand même... il y avait tout un tir.
Ben oui, redoutable. C'était le top 5 dans la ligue facile.
Mais ouais.
Mais tu sais, je veux pas lancer la pierre à Guéné ou à Bergevin, mais on a un peu échappé la balle. Là. Tu te retrouves dans une situation où est-ce que le Canadien de Montréal a dans sa formation en même temps des gars comme Price, Subban, Markov, Pacioretty, Plekanec. C'est quand même des joueurs intéressants
bon
corps, pour bâtir. Et Marc Bergevin n'a jamais échangé son choix de première ronde.
Ouais.
C'est comme si on s'est jamais dit faut y aller. Puis tu sais, il y a une façon de le faire. Quand le Canadien en 2009 pour le centenaire est allé chercher Giotto, Gomez, Camilleri, Spachek, puis par là.
Ouais.
Ça c'est je sais pas à quoi on a pensé, mais c'était complètement calme.
Hammerlick,
c'est vrai.
Si t'es une équipe comme disons les Stars de Dallas, puis tu repêches vraiment bien, peut-être que OK, je vais les garder mes choix au repêchage. Non seulement on les échangeait pas, mais tu repêchais des Michael McCarron puis des Nikita Sherbak, des Noah Juleson. C'est un lose-lose, là.
Puis tu fais des moves quand t'as repêché un Ryan McDonough, tu sais, genre...
c'est ça. Puis ouais, quand t'as repêché un bon Mihaly,
on l'échange. On l'échange. Mais c'est vrai quand même. Ces gars-là n'ont pas été entourés parce que le noyau de base du Canadien de ces années-là, c'était pas si mauvais que ça. T'sais, on aurait dû être capable
de... pour prétendre...
Ben oui.
Comme noyau là, pour prétendre à la coupe quasiment.
Tu sais, je veux dire, de mon vivant, là, on a fait une coupe de finale de l'Est, mais tout le temps par la fesse arrière,
ben
là,
oui.
On n'est jamais vraiment rentré comme une tonne de briques en série. C'est jamais arrivé que le Canadien rentre en série et que je me dise c'est notre année, on y va jusqu'au bout. Là. C'est tout le temps comme tu disais pour les Flames et les Canucks. on se tient dans le milieu, on essaie de faire les séries, puis on se fie sur Carey, puis vas-y,
c'est
Price,
ça, mais le bon gardien. Il y avait Bobby Lou à Vancouver, il y avait Mika Kiprusoff.
C'est vrai.
Là, à Calgary, quand on a eu l'air Carey Rameau, John Gillies, Chad Johnson, un peu plus de ça.
Non, c'est jamais
l'air Bob Hartley.
L'air Carey Rameau.
Oui, c'est ça.
Non, mais t'sais, été avec le Canadien pendant un bout.
Oui, oui, brièvement. Mais tu sais, quand on a eu cette ère-là, c'était un peu plus difficile. Même chose à Vancouver, quand on a eu, quand on a décidé de laisser aller Bobby Lou, là, c'était Corey Schneider, c'était Jacob Markstrom qui commençait. C'était plus difficile.
Oui, effectivement. Les gars, rapidement, là, je veux qu'on fasse deux petites nouvelles aussi qui sont tombées au cours de la semaine. Une plus récente, une moins récente. Nico Mikkola vient de signer un contrat quand même d'importance. 8 ans à 5 millions de dollars, le défenseur des Panthers de la Floride. Un cas classique de « je gagne la Coupe Stanley ». Je passe à la banque, puis vous savez quoi? C'est bien correct.
Ouais, bien mérité.
C'est complètement fou la quantité de contrats à long terme chez les Panthers. Barkov est signé jusqu'en 2030. Matthew Tkachuk aussi. Sam Reinhardt 2032. Sam Bennett 2033. Carter Verhaeghe 2033. Brad Marchand 2031. Anton Lundell 2030. Puis là, quand mon ordi va...
là, tu nous as, là. On est accroché au bout de tes lèvres. Là, on est là.
Ça s'en vient. Ça s'en vient. Et chez les défenseurs, Seth Jones 2030, Aaron Ekblad 2033.
Bobrovsky achète.
Bobrovsky est en arrivée cet été. Mais tout ça pour dire là, que les Panthers ont un noyau qui va rester ensemble pendant longtemps. OK, je l'ai. Aaron Ekblad 2033, Gustav Forsling 2032. T'as un noyau d'une dizaine de joueurs qui sont sous contrat encore pour 5 ans. Puis ouais, c'est vraiment impressionnant.
Il y a des gars là-dedans qui ont des très bons salaires. Là.
C'est ça. Oui.
Regarde Forsling.
Ouais, Forsling, c'est incroyable.
Forsling, ça commence par un 5, son salaire.
Non, non, c'est ça.
Un des meilleurs défenseurs de la ligue.
Ouais, même probablement Jones un des meilleurs shutdowns.
Sincèrement, de la façon dont Seth Jones a joué en fin de saison puis en série pour les Panthers, aucun problème.
Parce que les Blackhawks sont retenus du salaire.
Oui, ben oui. C'est ça. Exact. Exact. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça va faire peur. T'sais, on parle là, rapidement de la perte de Barkov, de la perte de Tkachuk jusqu'en janvier, mais fondamentalement, les Panthers ont vraiment un bon corps. Je veux dire, la profondeur est excellente dans cette équipe-là.
Anton Lundell, c'est tout un troisième centre. Il va être correct comme deuxième centre à court terme.
Il peut jouer sur un top 6.
C'est lui qui va remplacer Barkov.
Ben oui. Fait que tu sais, t'as Barkov qui est le joueur le mieux payé à 10 millions de dollars. Si on exclut évidemment Bobrovsky, qui fait lui aussi 10 millions, mais il devient agent libre cet été, fait qu'il risque de signer pour moins que ça à 37 ans.
C'est sûr.
Tu sais, je suis pas sûr. On disait un peu la même chose du Lightning il y a quelques années. Dehors, regardez, ils sont tous signés à long terme, à bas prix. Ils vont gagner plein de coupes cette année. Finalement, ça n'a pas été le cas.
Ben, t'as peur. Le Lightning a quand même connu deux coupes de suite puis une finale. Là. C'est quand même pas de la boîte.
Ouais, mais je te parle depuis ça.
OK.
Depuis ça, ça n'a pas été super concluant. Mais je pense que les Panthers, c'est vraiment une équipe qui pourrait être dominante pendant longtemps. Là.
Ils
ne gagneront pas la Coupe Stanley en 2031 parce que les joueurs vont finir par être sur le déclin, des blessures, tout ça. Mais...
Oui, puis Marchand, je veux dire, il y aura des accès de signer moins cher pour signer plus longtemps. Mais au final, ils ont réussi cette année. Puis Marchand ne s'en est pas caché, il l'a même dit dans les médias la semaine passée. C'est en raison du fait qu'il n'y a pas de taxes ici.
Ben oui.
C'est pour ça qu'on a réussi à ramener Bennett avec Blad et
moi. Selon Bettman, c'est pas vrai. C'est ça. Ah ouais, selon Bettman, ça change.
Ben non, c'est ça, c'est ça, exact.
Marchand l'a dit ouvertement. Est-ce que tout le monde crie tout haut là, depuis des années? Non, la seule différence, c'est que avant, ces marchés-là n'étaient pas en mesure d'avoir une culture gagnante et de tirer avantage de ça. Mais depuis une couple d'années, ben, on vient de le dire, le Lightning, plusieurs finales de suite, les Panthers, plusieurs finales de suite.
Exact. Les Stars.
Les Stars ont des bonnes années. Les Golden Knights ont gagné la coupe.
Les Hurricanes même.
Les Predators sont allés en finale. Des no-state tax, il y en a. C'est la réalité. Puis ça va être comme ça pendant quand même quelques années. Puis j'espère qu'on va être capable de corriger le tir un jour du côté de la Ligue nationale. Mais pour l'instant, ces équipes-là partent avec une longueur d'avance. Les gars, je vous pose la question. Barkov, out.
Ouais.
D'ailleurs, soit dit en passant, précision, si jamais on met le salaire de Barkov sur la liste des blessés à long terme, c'est 3,8 millions d'allègements. Si on le met et qu'il ne peut pas revenir au jeu en saison et en série, là, on obtient le 10 millions complet.
Ouais,
il y a quand même une nuance ici à avoir qui est intéressante. Est-ce qu'on continue à espérer revoir Barkov ou on décide d'aller s'améliorer autrement puis qu'on utilise le 10 millions? Mais nommez-moi une équipe qui pourrait quand même prétendre accéder aux séries alors qu'elle perd deux de ses trois meilleurs joueurs. C'est quand même impressionnant ce qu'on a bâti du côté de la Floride.
Fou.
Parce que pour moi, ils vont faire les séries quand même.
Ouais,
mais je vais t'enlever deux de tes trois meilleurs joueurs en considérant que Bobrovsky est le troisième là, ou le deuxième, peu importe. et de continuer à regarder par en avant, hey, bonne chance.
Non, ouais, honnêtement, c'est impressionnant.
Est-ce que le Lightning fait les séries, disons, sans Edmund puis sans Kucherov?
Je pense pas. Vasilevski est pointe et Genzel.
T'as peut-être Dallas, qui Dallas, c'est quand même une équipe avec énormément de profondeur. T'sais. Disons que tu leur enlèves Heiskanen puis Rantanen ou peu importe. Ouais.
T'as quand même Robertson, t'as quand même Attinger,
Thomas Harley en défense.
Ouais. Okay. OK, ouais, les stars, je suis d'accord. Ouais. Les stars, j'achète.
Mais on les compte sur les doigts d'une main, là, pour de vrai.
Ouais, ouais, c'est ça.
Mais pour vrai, j'en vois pas beaucoup, là.
Les Golden Knights?
Les Golden Knights enlèvent, mettons, Eichel. Ben là, eux, ils ont déjà perdu Pietrangelo.
Ouais, Pietrangelo est pas là. Fait est-ce qu'on compte?
Ben, je pense qu'il faut le compter pour le bien de l'exercice. Okay.
T'enlèves Eichel, les Golden Knights, il faut
Eichel, Pietrangelo.
Ben, écoute, sérieux, tu sais, t'as Anefin, là, t'as Marner, t'as des gars encore.
T'as chez
Theodore, c'est vrai.
C'est, l'équipe est plus aussi profonde qu'elle a déjà été, par contre.
Non, plus Nicolas Roy.
T'as plus Nicolas Roy. Ça change tout.
Ça change tout.
Ils ont Jérémy Lauzon, par contre.
C'est vrai. Non, mais ils ont une très bonne équipe quand même, Vegas. Mettons, on s'amuse, là. On fait-tu les prédictions la semaine prochaine? On va le demander quand même tout de suite. Votre favori pour gagner l'association de l'Ouest et gagner l'association de l'Est?
En saison régulière ou en série?
Saison régulière.
Ouh.
Moi, honnêtement, ça serait Dallas, je pense. Dans l'Ouest. Je pense que Dallas est encore là. On a Lafrenière qui se referme tranquillement, par contre. Puis on réussit à quand même garder des joueurs importants qui ont causé la surprise. Je pense à Matt Duchene, notamment.
Ouais, mais tu sais, Dallas, il y avait les grosses rumeurs que Jason Robertson a demandé qu'on n'était pas capable de le payer. Puis finalement, on n'entend plus parler.
Non, c'est ça.
Comme Jordan Kyrou.
Ouais.
C'était la sensation du moment.
Ouais. Finalement, plus personne ne parle de Jordan Kyrou. C'est vrai, pareil.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
C'est sûr, les...
Moi, j'irais avec Vegas.
Ben, ça, c'était mon deuxième choix.
Ouais, je pense Vegas dans l'Ouest. Toi, Ali?
J'ai le goût de faire le fou, puis j'allais dire le mammouth, là, mais je pense pas qu'ils sont rendus là encore. Mais je pense que le mammouth va connaître une excellente saison.
Je pense
saison.
Qu'ils vont en série cette année.
Moi, j'y vais aussi avec les Stars de Dallas. Pour moi, tu sais, Heiskanen a été blessé un petit peu par moment l'an passé. C'est une équipe qui est tellement complète.
Ouais.
Rantanen sur une année complète.
C'est ça.
Là, on a un nouveau coach. Peut-être que ça va faire du bien aussi au vestiaire. Là. Pete DeBoer.
Ah oui, ça, c'est incroyable.
Vraiment, il y a quelque chose avec lui qui ne marche pas. Là.
Mais le gars, il a tellement de succès en séries éliminatoires.
7 des 8 dernières finales de l'Est.
Il est invaincu en match numéro 7.
En fait, pas
nécessairement. Invaincu en match numéro 7.
Pas juste finale de l'Est, mais si tu élargis ça à finale d'association, il est sur une séquence extraordinaire. Ouais,
c'est le maître de la troisième ronde, man.
Mais il fait jamais plus que 300. Non, c'est
ça. Mais tu sais, c'est parce que Dallas, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs que s'ils décident de mettre la switch à on, ça peut être comme. Ça peut être impératif à quel point ils vont connaître du succès. T'sais, Rupe Hintz, Jason Robertson, là, à se rappeler les gars, l'année passée, là, c'était pas facile Robertson, mais quand il a décidé de s'y mettre, ça y allait. Miro Heiskanen peut changer une franchise à lui tout seul. Donc, ça va être assez intéressant, mais dans l'Est, c'est là que je me pose beaucoup de questions.
Moi, j'y vais avec les Rangers de New York.
Oh boy!
Oh là
moi,
là.
Je...
Ça, c'est un gros take.
Ça, c'est
là.
Fort quand même. Hein.
Ouais. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui, je sais pas pourquoi, mais elle a tellement de talent, on la sous-estime quand même. Il y a Mike Sullivan qui débarque en ville, un des meilleurs coachs de la LNH.
C'est un faux pas dans le fond, là.
Tu sais, les Rangers, Chesterkin, c'est un gardien top 3. Adam Fox est un des meilleurs défenseurs de la LNH. On vient d'ajouter Gavrikov, qui est un gars vraiment
perte de vitesse, Adam Fox, quand même. Là.
Oui, mais à quel âge, là? Il
non,
est pas,
sais, mais il a connu une saison décevante.
Ça reste que c'est un gars super talentueux. Puis en attaque, Panarin, JT Miller, Zibanejad, si Lafrenière est capable de prendre un pas de plus, je pense que c'est une équipe qui a tellement de talent. C'est sûr qu'ils vont finir par être bons, ils vont exploser à un moment donné.
Mais ça serait un peu la même chose que les Caps l'année passée. Caps l'année passée, on faisait nos prédictions, on les plaçait même pas en série. Je vais parler au jeu, là, je ne sais pas pour vous.
Non, mais idem.
Puis finalement, écoute, on tire avantage d'une division métropolitaine qui, soit dit en passant, est pourrie.
Ben oui.
Tu sais, les Pingouins et les Flyers, en partant, c'est pourri. Les Blue Jackets, on verra. Les Islanders, ça va être encore de la boîte.
Même les Devils l'an passé, tu sais, les Devils, là, c'était assuré de faire les séries. Ils ont fini à 91 points. Ils ont fini avec autant de points que le Canadien, puis ils ont fini dans les trois premiers de cette division-là.
Mais c'est ça que je te dis. Ouais. Faire les séries dans la métropolitaine, t'as 75% des chances.
Ouais, c'est ça.
C'est trois équipes sur quatre qui vont faire les séries. Ouais, les quatre autres sont éliminés en quasiment partant. respect aux Blue Jackets qui ont quand même donné une run aux Canadiens dernière, mais je vois pas Jet Graves là, répéter les performances qu'il a réussi. Moi, j'irais avec les Hurricanes, un peu pour la même raison.
Ouais.
Je pense que la métropolitaine est vraiment faible, puis c'est une belle équipe de saison régulière. Je pense que Nick Ehlers va bien cadrer là, avec les Hurricanes, fait que moi, je me range du côté de la Caroline.
Ouais, moi, je vais du côté de la Floride, les gars. Moi, je pense que la Floride...
La Floride, malgré Barkov, entre toute la saison, vont gagner l'Association de l'Est.
Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Sam
Paul Maurice gagne le Jack Adams.
Je pense que Sam Bennett est capable de prendre le rôle d'un centre top 2, que ce soit premier ou deuxième trio. Anton Lundell va vraiment prendre du galon. On met des joueurs dans des situations où ils peuvent briller. Je pense qu'ils vont le faire. Tu sais, Gustav Forsling peut juste être meilleur. On en a parlé brièvement là, à la fin de votre émission, mais Matti Samoskevich, lui, c'est un joueur que je veux surveiller cette année parce que s'il est capable de bien faire, ça peut être un atout offensif super intéressant. On a un top 4 extrêmement solide. Et pour ce qui est de Sergei Bobrovsky, ben moi, je pense que cette année, c'est la dernière année avant qu'il frappe son mur. Mais honnêtement.
Excuse-moi, Hugo, puis moi, je pense que c'est une équipe qui est épuisé quand même. Tu sais, le poids des années de trois finales de suite. L'année dernière, on a fait les séries, mais on les a faites un petit peu sur le cruise control parce qu'on veut justement se garder un certain rythme et de l'énergie pour les séries. T'enlèves Barkov, t'enlèves Tkachuk, t'as Ekblad qui vieillit, t'as Marchand qui vieillit.
Mais Tkachuk, il l'avait déjà pas durant la saison l'année dernière. Il a été blessé aussi.
Ouais.
Moi, j'ai l'impression qu'ils ont plus de chances de gagner la coupe que de gagner l'Est en saison régulière.
Je suis 100% d'accord avec ça.
Je sais pas. Moi, je pense que ça va être l'inverse qui va arriver. On part fort. On est capable d'être constant, mais maintenant, on frappe un mur.
Contrairement aux équipes de la métropolitaine, dans l'Atlantique, écoute, peut-être les Leafs vont prendre un pas de recul, puis peut-être que les Bruins, ça va être encore difficile, mais le Lightning est là. Les Sénateurs veulent s'améliorer. Ouais, le Canadien, les Red Wings vont vouloir prendre un pas d'avance. On verra pour les Sabres. Peuvent-ils enfin... Est-ce que les As peuvent enfin s'aligner pour les Sabres? T'sais, je trouve qu'il y a des adversaires plus difficiles dans l'Atlantique que dans la métropolitaine.
C'est clair.
Ça, c'est sûr.
En tout cas, c'est intéressant. Écoute, ouais. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Écrivez-nous en commentaire sur le lien YouTube si justement vous voulez nous donner vous aussi vos prédictions pour qui va remporter les associations de l'Est et de l'Ouest. On espère que vous avez aimé la première mouture. En tout cas, moi, j'ai eu bien du fun, vous autres.
C'était vraiment le fun.
Je suis content de me joindre à votre projet, les gars.
En tout cas, l'important, c'est d'avoir du plaisir. Si on a du plaisir, on espère que vous en avez à la maison. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Radar.
Ciao.